think tank.
Lustig. Réflexion.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à obtenir.
Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté en partenariat avec l'école de management Audencia Business School et le master spécialisé Management des organisations de sport d'Audencia. Très heureux de vous retrouver pour la partie 2 de notre émission sur le sport et les territoires. On va essayer d'aller un petit peu au-delà du constat cette fois et on va se poser la question de comment essayer d'améliorer cette gouvernance et quelle pourrait être l'évolution de la place du sport dans les territoires, avec des invités toujours aussi prestigieux, et je laisse la parole à Amandine pour nous les présenter.
Merci Juliane. Alors, sur le plateau de cette émission, nous avons Stéphane Mizona, directeur des masters spécialisés d'Audencia, Younsan Meas, qui est le président du CROSS Pays de la Loire. Donc le CROSS, c'est le niveau régional du comité olympique. Et nous avons également Monsieur Yves Rouleau, qui est administrateur de l'ANDES, l'association nationale des élus au sport, et adjoint au sport à la mairie de La Roche-sur-Yon. Par téléphone, nous aurons différents intervenants. Vincent Chaudel, directeur de la communication et du pôle sport de Cœur Salmon, qui est également vice-président de Sport et Citoyenneté. Nous aurons aussi Maxime Leblanc, chef de projet européen chez Sport et Citoyenneté, ainsi que Jacques Vergne, qui est président de l'association Sport et Territoire. Et nous aurons également deux étudiants du Master Management des organisations de sport d'Audencia, Alexandre Lemaître et Benjamin Savoldelli.
Merci beaucoup Amandine, et on va commencer tout de suite avec les étudiants d'Audencia et monsieur Alexandre Lemaître, bonjour.
Oui, alors bonjour Julien, je vais essayer de vous synthétiser un peu la réforme. Donc de notre côté, on essaie de mettre en avant donc les différents points qui ressortaient de cette réforme de décentralisation. Donc la première réforme, c'est la clarification des compétences et du rôle de l'ensemble des acteurs du secteur sportif. Le deuxième point, c'est une clarification des responsabilités politiques qui vont incomber aux différentes fédérations, aux différentes instances décisionnaires. Et enfin, de redonner une autonomie financière aux régions afin de restructurer les dépenses et d'essayer de se tourner, comme l'a dit la publication de Christopher Aubois qui est sortie récemment, qui disait que les fédérations doivent prendre une forme de marques et d'entreprises privées et qui doit se détacher de l'intérêt général. Et c'est là où il y a un petit non-sens que nous comprenons pas dans le projet de modernisation du sport. C'est que, en fait, le pouvoir public le pouvoir de régulation des fédérations doit se séparer du secteur professionnel et en constituant une mission de service public à part entière. Et c'est là que l'on trouve qu'il y a un petit contresens à nos yeux.
Merci beaucoup monsieur Lemaître, c'était clair et c'est toujours difficile d'expliquer ça à la radio. Nos auditeurs seront évidemment tolérants et moi je trouve que c'était une explication assez claire. Ça lance notre débat autour de la table et j'avais une question préliminaire justement à poser à Stéphane Mizona. Votre implication justement en tant que dirigeant d'une grande école sur le territoire et son évolution aussi de l'implication d'une grande école, hormis le fait de gérer justement des étudiants qui seront les dirigeants de demain, est-ce que vous accompagnez, est-ce que vous suivez l'évolution du territoire, en particulier dans le domaine du sport?
Alors, vous m'en faites faire beaucoup, hein. Avant l'école, d'abord une direction de programme. Une école est ancrée dans un territoire et le territoire nous donne notre histoire. Et c'est vrai. Bon, alors si on prend l'exemple du sport, l'ancrage peut se faire ou la collaboration dans le territoire, par exemple avec le biathlon de la Baule qui est organisé avec par Audencia chaque année maintenant. Et par ailleurs, effectivement, notre histoire s'appuie sur le territoire et les programmes que l'on va développer s'appuient beaucoup également sur les acteurs principaux. Il y a des programmes qui sont bâtis autour du pôle de Nantes et de Saint-Nazaire, plus particulièrement au niveau industriel, par exemple. On en développe un autre en agroalimentaire parce que le Grand Ouest est une région très forte en agroalimentaire.
Donc sur des projets de loi de modernisation, vous les suivez quand même, vous essayez de d'adapter un peu vos ambitions, vos programmes en suivant la loi, mais pas que dans le domaine du sport. Ça, c'est quelque chose que vous allez regarder, des projets de loi de modernisation de ce type?
Ah oui, c'est clair, hein. On les subit de toute façon et on doit vraiment s'inscrire dans la logique territoriale. Et si j'en reviens au programme, à notre master spécialisé en management des organisations de sport, c'est un peu aussi ce qui explique le fait de sa délocalisation sur la région parisienne pour suivre justement les principales organisations qui sont sur Paris.
Donc on est dans un pays quoi, trop centralisé encore?
Oh, on navigue un peu entre les deux. Je le disais le mois dernier, la décentralisation a certainement des avantages, mais aussi des inconvénients.
Dans les grands enjeux que l'on va essayer d'aborder aujourd'hui, il y a incontestablement des tendances sur le vieillissement de la population. Selon l'INSEE, en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans contre 1 sur 5 en 2005. Plus de 900 000 habitants prévus sur le territoire en 2040. Une périurbanisation, donc des défis en termes d'emploi, de logement, d'infrastructures. Comment se positionne le mouvement sportif, Yun San, face à ces grandes tendances, ces grands défis de demain, en particulier une population qui évolue? Est-ce que, en tant que président du CROSS, vous êtes sensible à ces évolutions et comment vous les appréhendez?
C'est une très grande question. Je vous remercie.
Le débat est lancé. L'émission démarre en ce beau mois de mai.
Complètement. Effectivement, il y a un aspect quantitatif que vous évoquez. Et la région va grandir et nous sommes, au niveau du mouvement sportif, en train de réfléchir sur la stratégie de développement. D'une part, tout à l'heure, Stéphane a parlé du désert. Donc, effectivement, il y a une idée originale actuelle qui se met en place. On va avoir le même type de réponse que le monde sanitaire. C'est-à-dire que ne pas avoir de répondre, dire, écoute, il manque des médecins. Non, il manque des médecins, mais il faut savoir les utiliser de manière optimale. On crée des équipes mobiles sanitaires de médecins. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme disait Yves, le problème de déplacement, c'est mobilité, certes, mais pour ceux qui ne peuvent pas, c'est le monde sanitaire qui va. Ça sera la même chose pour le monde sportif, puisque nous sommes en train de créer un certain nombre de professionnels et des bénévoles qui vont aller animer dans les maisons de retraite vers les lieux où le déplacement va être difficile. Donc, il y a des coachs santé, des coachs éducateurs sportifs qui vont être formés à la santé, au sport et à la santé. Alors, il y a effectivement, vous avez évoqué un aspect quantitatif, et nous sommes dans des principes forts d'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, ça va nous amener à remodifier notre stratégie de gouvernance. Effectivement, on est au cœur du sujet. Donc, nous avons une volonté forte, d'une part, de réduire les inégalités économiques et sociales. Donc ça, il faut le savoir, puisque effectivement, dans le futur, il y a un grand nombre qui va arriver. Et plus il y aura de la masse démographique, plus, hélas, on sait que économiquement, socialement, il y aura des inégalités. Donc nous veillons à que cette inégalité soit la moindre possible. Il y aura un deuxième point aussi, c'est la professionnalisation croissante dans le sport. Et qui nous amène, et qui nous conduit forcément à une stratégie, et nous voulons évoluer vers une gouvernance associative. Ça sera quelque chose de très fort. Et le génie du comité du mouvement sportif, c'est d'essayer de combiner une tension féconde entre le rôle des dirigeants bénévoles et l'action des professionnels dans une logique de non-lucrativité confirmée et affirmée.
Yun San, je vous coupe tout de suite, excusez-moi, et ça c'est un problème qu'on entend souvent. Effectivement, le monde associatif doit jouer un rôle plus important, il le joue déjà, et c'est le cœur du sport, mais il doit aussi faire face à cette professionnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le monde associatif peut faire face à cette professionnalisation sans tomber dans des formations à outrance, des complexification administrative, etc., etc. Comment est-ce possible?
Alors, c'est tout ce génie associatif. C'est-à-dire que nous allons avoir un comportement et une offre de stratégie de type professionnel, en essayant d'en rester, et je dis bien c'est difficile, bénévole. C'est-à-dire que la réponse donnée est de niveau qualitatif professionnel, avec une responsabilité de nos actions et de nos combinaisons. La difficulté va être au niveau juridique assurantiel que la société voudra bien nous donner, parce que là, ça engage d'autres problématiques, et c'est là on attend vraiment de la nouvelle gouvernance, mais dans une gouvernance sociétale, juridique, assurantielle, financière, de bien penser, parce que humainement, nous sommes tous prêts.
Est-ce que le risque, c'est pas aussi de voir des bénévoles qui se démotivent un peu face à tout ça? On sait quand même que, évidemment, le nombre de bénévoles dans le domaine du sport reste en France et en Europe. En Europe, on est à 35 millions de bénévoles dans le domaine du sport. La source la plus importante. Mais on sait aussi qu'il diminue légèrement. Comment arriver à garder cette flamme qui est vraiment le cœur du sujet?
Alors, vous parlez d'un ancien bénévole, hein, ça fait. Donc je suis toujours bénévole, ça fait plus de presque 30 ans. Et c'est comme la politique, globalement, parce que nous faisons aussi une politique sportive, hein. Mais si vous êtes passionné, c'est ce qui nous tient. Et je pense que dans le sport est le plus grand producteur et la plus belle assise du bénévolat en France. Et je suis pas très inquiet sur le nombre de baisses ou pas, parce qu'il y aura toujours une maman, un papa qui va amener les enfants, qui va collaborer pour amener les enfants du voisin, etc. Il y aura toujours. La difficulté, c'est que ce sont des contraintes assurantielles. Ça, c'est ce qu'on voit en première chose. La deuxième difficulté, qui est aussi dans le mode de économique actuel, c'est, on est en train de lutter, mais ça change, on sent qu'il y a un petit changement, c'est le sportif qui vient consommer. C'est-à-dire qu'on prend une licence, un club, et voilà, j'ai payé ma licence, j'ai droit. Et là, c'est la différence entre un club associatif et un club, je dirais, privé. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faire du sport dans un club, c'est bien, et le club, c'est autre chose que du sport.
Monsieur Rouleau, vous vous occupez du sport pour une collectivité, La Roche-sur-Yon, et je vous pose aussi cette question. Le développement d'une offre sportive adaptée à tous les âges de la vie, et en particulier pour les acteurs qui sont les plus éloignés de cette offre sportive. Comment, au quotidien, vous allez les chercher? Comment vous les intéressez? Comment vous leur permettez cet accès?
Oui, plutôt que d'aller les chercher, il faut leur donner les moyens de pratiquer le sport. Et c'est tout le domaine de l'accessibilité. C'est-à-dire que quand vous faites... On peut parler des piscines. Une piscine ne peut se concevoir maintenant sans un accès pour les personnes handicapées de multiformes, avec ou bien des rampes d'accès ou bien des potences. Donc il faut s'adapter, je disais tout à l'heure, le sport aux nouvelles pratiques. Il faut, comme le disait Yusan, adapter le sport aux personnes âgées et qui ont besoin d'équipements particuliers. La grosse difficulté actuellement est d'abord quantitative. C'est-à-dire que dans une ville comme la mienne, où tous les équipements sportifs sont saturés, quand on voit une nouvelle population arriver, de seniors, on a des grosses difficultés à les insérer. À cette analyse près que les personnes âgées ont une disponibilité dans la journée et qu'on peut les faire pratiquer dans des moments où les équipements sont moins occupés. Les clubs, c'est entre 17 et 21 heures. Bon, les loisirs, le citoyen, celui qui travaille, a besoin également de ces mêmes créneaux. Mais en matière de personnes âgées, on a des disponibilités sur les équipements de la ville et on doit remplir ces créneaux inoccupés. Moi, j'apprécie beaucoup l'attitude du SAN et du CROSS, la nouvelle attitude, qui était une attitude d'ouverture, non pas simplement à aux sportifs de compétition, mais à toute une population qui n'avait pas accès à une activité sportive. Et on voit bien que dans la plupart des disciplines, cette tendance s'engage. On voit des centres vélos dans des clubs cyclistes. On voit du sport santé en athlétisme avec la marche nordique. On voit les pratiques de la natation, l'aquagym se développer considérablement dans les équipements. On voit également au niveau de la gym s'organiser des sections gym loisirs. Et cette notion-là d'élargir la pratique sportive à d'autres publics que le public de compétition est, à mon avis, à prendre en considération dans les équipements futurs.
Alors, je vais vous poser la question qui fâche un petit peu, mais est-ce que vous vous sentez épaulé par l'État? Est-ce que les financements ciblés du CNDS en particulier, vers les publics les plus éloignés, vous permettent de mener au quotidien, de répondre au quotidien à ces attentes?
Alors, au quotidien, certainement pas. Donc, il y a eu effectivement, de la part du CNDS, une baisse, en tout cas une réflexion sur l'aide aux équipements sportifs. Je crois qu'il faut maintenir cet effet levier, cet effet démultiplicateur du CNDS. Chaque année, au niveau national, c'est 50 millions d'euros, mais 50 millions d'euros qui génèrent 2 milliards d'équipements. Et donc, il faut maintenir cette incitation des collectivités à produire des équipements sportifs. Donc, le CNDS, à mon avis, a un rôle tout à fait important, d'autant plus que pour arriver à déposer un dossier CNDS, il y a des étapes importantes. Il y a l'étape départementale, il y a l'étape régionale, et il y a l'étape des fédérations. Et par conséquent, quand un dossier arrive au CNDS, c'est qu'il a subi une méthode d'analyse et de production qui le valorise et qui lui donne une certaine homologation dans la pratique et dans ses justifications d'équipement. Je crois que le CNDS doit être au minimum maintenu et si possible amplifié.
Alors, on peut pas éviter non plus le sujet du haut niveau. Le sujet du haut niveau avec, là aussi, une compétence partagée entre l'État et le mouvement sportif. Les évolutions possibles, évidemment, l'objectif, c'est de faire des sportifs qui peuvent représenter la région, la France, et qui peuvent faire la gloire de nos territoires et de notre continent. Mais on a vraiment l'impression aussi, en particulier au niveau régional, qu'il n'y a là peut-être pas une synergie de tous les acteurs du haut niveau, les pôles, les centres de formation, les clubs pro, les CREPS. Younsan, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment vous voyez le haut niveau de demain et surtout avec un objectif de créer des idoles pour nos enfants?
Alors, c'est une question très intéressante dans le sens où le haut niveau, je vais d'entrée de jeu faire la différence entre un sport professionnel et le haut niveau. Alors, je vais faire un petit clin d'œil, parce que c'est la période de tous les championnats. Un haut niveau, par définition, n'ira toujours chercher qu'une seule couleur de métal. C'est l'or. Voilà, j'ai dit. Donc, ce qui est important, ça ne veut pas dire que les professionnels ne sont pas de haut niveau. Certains sont très haut niveau. Par contre, les professionnels qui ne sont pas, pour moi, de haut niveau. Exemple, un sport avec un ballon qui est en deuxième division, par exemple. C'est un professionnel, mais ce n'est pas forcément haut niveau. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus de haut niveau. Maintenant, c'est dans la région le souci pour le haut niveau de faire des athlètes. Il y a à peu près 680 athlètes de haut niveau listés. C'est une définition très particulière, précise. Et une petite centaine de très très haut niveau, qui est ce qu'on appelle la préparation sur la liste, sur un championnat d'Europe ou du monde. Il y a vraiment un réel souci du mouvement sportif à faire, d'une part, un premier projet qui est le parcours d'excellence sportive, avec les structures des pôles d'entraînement, Espoir, France, Élite, et le CREPS, le futur CREPS de la région. Hein. Mais un deuxième projet qui était extrêmement important pour nous, c'est justement, et je suis ravi d'avoir un partenaire comme Audencia, c'est un parcours professionnel, un double projet professionnel. Et la réussite pour le monde sportif, pour le comité olympique, c'est d'avoir cette réalisation, ce double projet, tant personnel sportif, mais aussi personnel professionnel.
Stéphane, j'imagine que ça, c'est un sujet qui doit vous toucher vrai, complètement.
C'est très clairement une de nos préoccupations majeures, nous, en termes d'organismes de formation, de participer à cet accompagnement finalement des sportifs et à leur proposer une reconversion à connotation un peu négative, donc un prolongement de leur carrière avec nos programmes.
On va commencer à couper ce débat avec une première pause musicale, Amandine.
Oui, tout à fait, merci Julien. On va écouter Royals de la néo-zélandaise Lorde.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's a run in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Bonjour, bienvenue sur Radio Nantes. Nous avons la chance d'avoir en ligne Monsieur Vincent Chaudel, vice-président de Sport et Citoyenneté. Bonjour Vincent.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ? Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends pas mal.
On a pas mal discuté des questions de sport et territoire, de gouvernance du sport à un niveau national, à un niveau local. On sait que vous avez travaillé et commencé à réfléchir sur ce que pourrait être le sport dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on aimerait bien avoir votre avis éclairé de spécialistes, d'experts du sport.
N'en faisons pas trop. Non, effectivement, ce qui me semble intéressant sur l'évolution du sport, c'est bien garder à l'esprit que le monde que l'on connaît aujourd'hui va évoluer et que le sport n'est pas en dehors du monde. Et rien que pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer quelqu'un qui se serait endormi au milieu des années 90 et qui se réveillerait maintenant. Au milieu des années 90, avant l'arrêt Bosman, par exemple, sujet qui est important pour nous au niveau de Sport et Citoyenneté, parce qu'on croit énormément à la place et au rôle de l'Europe au niveau du sport et de son environnement, eh bien, il y avait une coupe des clubs champions, il y avait une coupe des coupes, il y avait une coupe de l'UEFA, il y avait des quotas au niveau des joueurs. Mais aussi, dans notre monde, à cette époque-là, on était très Minitel en France. Et on pouvait réserver son terrain de tennis grâce au Minitel, peut-être. Mais on n'avait pas nécessairement encore le téléphone portable. On n'avait pas... il y avait Canal+, et uniquement Canal+. On avait 5 ou 6 chaînes. Et puis, si on se réveille aujourd'hui, on se rend compte que le monde a beaucoup changé. Les téléphones portables, certes, ont beaucoup évolué et nous permettent aujourd'hui d'avoir l'information en temps réel. Réserver nos cours de tennis, certainement qu'on peut le faire grâce à un site internet, mais on peut aussi aujourd'hui chercher un partenaire grâce à ces réseaux sociaux. On peut avoir de l'information en instantané, on peut avoir beaucoup de choses. Alors, imaginez-vous dans 30 ou 40 ans ce que sera le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu évoquer avec le dernièrement dans une journée de discussion avec le conseil régional des Pays de Loire. C'est réfléchir à ce que sera l'environnement pour le sport au niveau d'une région en 2040, par exemple. Eh bien, dans un contexte où les finances, les puissances publiques sont un peu mises à mal, où on risque d'avoir un État qui va se recentrer sur certaines prérogatives et puis transférer de plus en plus, encore plus de compétences ou de responsabilités au niveau local. Et ça, forcément, il va falloir l'imaginer, l'encadrer et se donner les moyens de faire vivre les initiatives locales. Alors, les clubs professionnels comme les clubs amateurs, au niveau de votre quartier comme au niveau de votre ville.
Est-ce qu'on a de l'espoir quand même de voir de plus en plus de pratiquants dans ce schéma de prospective, en particulier les populations les plus éloignées, dans les quartiers sensibles, les handicapés, etc., etc. Est-ce que vous y croyez à ça ?
Alors, moi, je veux y croire. Là aussi, si nous étions endormis il y a bientôt une vingtaine d'années, on a vu le temps libre gagner notre société grâce au 35 heures, grâce à une évolution de l'espérance de vie, une évolution positive. Un point d'alerte pour autant, l'évolution à la hausse des phénomènes d'obésité. Et donc, je crois que à plusieurs échelons de la société et de nos dirigeants, on commence à prendre conscience, ou on a pris conscience, de la nécessité pour le bien-être, pour l'intérêt général de la société, de se mettre en action, d'être actif, donc d'être sportif. Donc aujourd'hui, il y a certainement moins que demain des initiatives qui vont être mises en place pour du sport à l'école, pour du sport dans les entreprises, pour du sport dans vos quartiers. Et le sujet qui est très important désormais, qui me semble acquis dans l'esprit des gens, c'est que toute évolution, tout sujet ne se fera pas, ne peut se faire au détriment de la diversité, au détriment de la parité, au détriment du respect de chacun, y compris du handicap. Donc, je veux être positif et croire à cette évolution, mais une fois qu'on a dit ça, ça sera pas simple ou facile pour autant. Hein.
Merci beaucoup Vincent Chaudel. Une dernière question, est-ce qu'en 2040 le Paris Saint-Germain aura gagné la Ligue des Champions ou pas?
Le Paris Saint-Germain probablement, le FC Nantes ça sera peut-être un peu plus difficile et je ne parlerai pas d'autres clubs.
Merci beaucoup Monsieur Chaudel, à très
Merci.
Bientôt. Des réactions sur ce schéma de prospective sur l'évolution que le sport prendra dans nos territoires, des espoirs. Monsieur Rouleau.
Oui, moi je ne prendrai pas la parole sur ce qui se passe au niveau international et en particulier du foot, hein, qui est quand même un élément très très particulier dans la pratique sportive. Mais pour ce qui nous intéresse en ce qui nous concerne, c'est toujours la pratique sportive dans les quartiers. Et le sport ne sera jamais désincarné. On a besoin de sport dans un quartier pour un lien social. Le bénévolat est présent, la passion est présente. Et par contre, ce que disait l'interlocuteur précédent, c'est que la société a considérablement évolué et que il y a 50 ans, le travail était plus long, mais moins stressant. Et actuellement, la durée de travail est courte, mais stressante, et tous ces employés, ces infirmiers, tout le monde du travail a besoin de se défouler dans la pratique sportive. Et on voit s'amplifier considérablement la pratique sportive en dehors du travail. C'est un élément sociétal important à prendre en considération. Il a parlé des us et des zones urbaines sensibles. Je crois que c'est un travail considérable de savoir quelle est l'accessibilité du sport dans ces zones urbaines sensibles. Actuellement, on ne le sait pas. Il y a une enquête à laquelle participe Landais sous l'égide du ministère pour savoir quels sont les équipements accessibles au niveau des IUS. Landais y participe très activement. Je crois qu'il faudra tirer la leçon de la non-accessibilité de gens qui ne sont pas identifiables puisqu'ils n'ont pas de licence et qu'ils ne pratiquent pas. Et donc, nous sommes en tout cas très très favorables à ce que le sport soit accessible à tous les milieux sociaux, y compris dans les zones défavorisées.
Nous avons par téléphone Monsieur Jacques Vergne, qui est président de l'association Sport et Territoire. Bonjour, Monsieur Jacques Vergne. Ouais.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce débat. Peut-être que vous pouvez rapidement nous expliquer les actions de sport et territoire et les enjeux que vous identifiez. Justement, on est dans une discussion de prospective dans les années à venir.
D'accord. Donc, sport et territoire est en fait un réseau national là, des directeurs des sports des collectivités, hein, que ce soit les villes, les intercommunalités, départements ou régions. Et donc l'objectif, voilà, c'est d'échanger et de travailler sur la mise en œuvre des politiques sportives dans les collectivités. Voilà, donc à ce titre-là, bon, on a des publications, on a une revue mensuelle qui s'appelle la revue Acteurs du sport, on organise voilà, des forums, des échanges sur les politiques sportives.
Alors, quels sont les enjeux que vous avez pu identifier justement sur les territoires, les enjeux et les problématiques, j'ai envie de vous demander.
Alors aujourd'hui, ce qu'on sent bien, c'est que les enjeux vont être de mutualiser les moyens entre les différents niveaux de collectivité, parce qu'on est dans un contexte un petit peu difficile d'un point de vue économique et les répartitions de compétences étant pas forcément très très claires sur le plan législatif, donc il est important de regrouper les forces. Et on estime que les enjeux sont à deux niveaux, hein. C'est de renforcer le binôme ville centre intercommunalité d'une part, et d'un autre côté renforcer aussi le binôme ou le duo entre département et région.
Vous sentez qu'en cette période de crise, vous qui vivez le sport au quotidien dans les collectivités, que le sport est peut-être le premier secteur quand il faut faire des choix, des coupures financières au sein des collectivités. Vous le ressentez en ce moment ?
Alors, je ne sais pas si c'est le premier secteur. Par contre, on ressent quand même des difficultés du fait que le sport n'est pas une compétence obligatoire dans les collectivités. Et donc même si la volonté souvent locale est forte, parce que en général les élus pensent à juste titre que le sport est important, mais quand il y a des compétences obligatoires qui chargent financièrement la collectivité, ben les compétences qui ne le sont pas comme le sport, ben on souffre forcément. Oui.
Alors on avait tout à l'heure Yun San Meas qui nous expliquait que dans ces moments-là, il faut rappeler le nombre de bénévoles du sport, le nombre d'associations, le nombre de clubs sportifs dans les territoires. Est-ce que vous utilisez ces leviers justement pour convaincre, pour débloquer des financements ?
Alors c'est vrai que c'est un formidable levier en France, hein, le tissu associatif, le tissu des bénévoles, et qui souvent se repose, je dirais, en termes de moyens sur les collectivités. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont un sentiment un peu d'être démunis, parce que les collectivités voilà, ont plus de mal pour les accompagner au même niveau qu'auparavant. Et donc ces bénévoles sont aussi en difficulté, quoi.
Alors je sais que vous tentez des actions innovantes, vous, dans votre collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en particulier dans le domaine de la santé?
Ah oui, alors donc sur Strasbourg.
Exactement.
Donc, voilà, donc oui, dans notre collectivité, on a initié il y a un peu plus d'un an le sport sur ordonnance, en partant en fait voilà d'un constat que beaucoup de gens partageaient déjà, hein, sur le fait que voilà, le sport est favorable pour la santé et même d'un point de vue économique est intéressant parce qu'il fait faire des économies sur la santé des personnes. Et chez nous, le principe est assez simple, hein. En fait, les gens vont voir un médecin qui prescrit l'activité physique et sportive. Et ensuite, au sein de la ville, on a deux éducateurs sportifs qui accueillent les personnes pour les orienter vers des activités qui conviennent bien.
Et là, vous avez réussi justement à fédérer tous les acteurs, les collectivités, le mouvement sportif, l'État, autour de ce projet. Ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas montés dans le bateau, pour prendre une expression de voile?
Non, tout le monde joue le jeu parce que tout le monde avait envie de tester cette expérience. Donc il y a effectivement donc les services de l'État qui sont présents. L'ARS, l'Agence régionale de santé, on a aussi la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, les associations sous forme de, on a un cahier des charges, donc il faut qu'elles soient labellisées dans notre cahier des charges pour pouvoir accueillir les patients, parce que ce sont quand même des personnes qui ont des difficultés de santé importantes. Voilà, donc une forte mobilisation sur l'expérience.
Merci beaucoup, Monsieur Verne, pour ces témoignages et bravo pour ce que vous avez mis en place. On le suit attentivement avec un espoir, nous, Sport et Citoyenneté, que ça puisse se dupliquer en France et en Europe, cette bonne pratique. Et à très bientôt. Je laisse la parole à Amandine Luce, qui, semble-t-il, va passer une excellente chanson.
Oui, on va écouter une chanson qui va faire plaisir à certaines personnes en plateau. On va écouter The World As I See It de Jason Mraz. Oh, I really love you.
Bonjour Maxime Leblanc, bienvenue dans notre émission. Vous êtes chargé de projet chez le think tank Sport et Citoyenneté, en charge des subventions européennes et autres amusements européens.
Exactement, bonjour, merci beaucoup de m'inviter dans votre émission.
Bon, tout le plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous, évidemment. On a beaucoup parlé de territoire, de développement des territoires, de l'évolution de la pratique sportive sur les territoires. On a aussi parlé de financement. On vient de voir avec Jacques Vergne qu'en période de crise, le sport était parfois mis un peu de côté, malgré sa puissance en nombre d'adhérents et de bénévoles. Et là, vous allez nous éclairer un petit peu, nous expliquer peut-être que demain, des financements européens pourraient arriver sur les territoires. Et comment est-ce qu'il pourrait arriver? Comment nos auditeurs peuvent avoir accès à ces financements? On s'en fait souvent un monde, un labyrinthe inaccessible et heureusement vous êtes là et vous allez nous éclairer.
Merci, je vais essayer de vous éclairer un petit peu dans ce petit labyrinthe et cette complexité. Alors si vous voulez, il y a deux types de subventions à l'échelle européenne. Il y a tout ce qu'on appelle les fonds structurels, donc qui sont des fonds gérés dans les États membres, gérés dans les régions au niveau local, des fonds qui répondent à des objectifs spécifiques en fonction du territoire. Donc ces fonds-là sont négociés par chaque État membre et sont redistribués dans les régions. Ils sont gérés au niveau local, au niveau de la région. Donc c'est des fonds que les organisations peuvent réclamer directement sur leur territoire. À ce premier type de fonds, qui est vraiment le plus connu, donc c'est les FEDER, FSE, FEADER, etc., donc le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, on a un autre type de fonds qui est géré directement par la Commission européenne, tout est centralisé à Bruxelles, qui sont des programmes d'accès direct, thématiques, donc en fonction des priorités politiques de l'Union européenne, sur la santé, sur l'inclusion sociale, sur le handicap, sur le développement territorial aussi. Donc ces fonds-là sont gérés directement par la Commission européenne. On peut y accéder aussi, évidemment. On a aujourd'hui un nouveau programme pour le sport, un tout nouveau programme depuis 2014, intégré au programme Erasmus+, donc il y a une vraie opportunité aujourd'hui, avec un montant assez conséquent, compte tenu de l'histoire du sport et de l'Union européenne, à peu près 30 millions d'euros disponibles pour ce programme sport. Donc on a de vraies opportunités pour créer des projets à dimension européenne, créer des partenariats, échanger des bonnes pratiques et faire avancer cette politique européenne du sport. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu, évidemment, éloignée, cette partie un peu bruxelloise, qu'on a souvent du mal à appréhender, à comprendre, et que les porteurs de projets n'osent pas solliciter. Et on a à côté, comme je vous disais, toute une série de fonds au niveau local qui existent, qui sont à disposition des porteurs de projets aussi. Malheureusement, on remarque depuis quelques années que la communication autour de ces fonds, l'information ne circule pas beaucoup en région, que les porteurs de projets, les organisations qui ont des projets innovants, qui ont des projets intéressants, ne sont pas au courant du fonds lui-même, de l'existence du fonds lui-même, ne sont pas au courant des procédures, sont mal renseignés. Donc on arrive à des situations dans lesquelles on a des fonds disponibles pour le sport, dans le domaine du sport, et qui ne sont même pas réclamés, faute d'informations.
Et merci beaucoup, Monsieur Leblanc. Monsieur Rouleau, est-ce que vous y pensez quand vous mettez en place un projet dans votre collectivité sur le territoire? Et on n'a pas encore ce réflexe.
On a ce réflexe, mais ce réflexe-là n'est pas généralisé. Et je crois qu'on touche du doigt un des défauts majeurs de l'organisation du sport en France, c'est le manque de communication. On voit bien que les collectivités locales ne communiquent pas suffisamment avec les fédérations, le CROSS, on voit bien avec ceux qui gèrent les fonds européens. Il y a un manque là de mise en commun des informations et auprès d'une commission, alors je ne sais pas où elle doit se situer, mais en tout cas au niveau régional, pour que il y ait ce brassage et que les rationalités de chacun puissent y trouver leur compte. Je crois qu'on a, on est en face de rationalités ou de cohérences qui sont différentes entre les rationalités du mouvement sportif et en particulier les rationalités des collectivités territoriales, des collectivités locales.
Et pourtant,
on a besoin de communication.
Et pourtant, c'est possible, Yoon San, oui. Pour les Jeux Nautiques Atlantiques, vous avez réussi à lever une subvention européenne. C'est possible.
C'est possible, effectivement. Je pense que une des missions, et peut-être que là, on doit optimiser notre stratégie de communication et d'accompagnement auprès des différentes disciplines qui fédèrent au Comité Régional Olympique et Sportif. Effectivement, je suis ravi, Maxime, je te remercie, parce que vraiment, c'était très limpide, les deux fonds, un fonds structurel et un fonds bruxellois qui est Erasmus. Et vraiment, nous avons déposé un dossier à Erasmus pour obtenir de l'aide et un appui logistique pour les Jeux Nautiques Atlantiques.
Les Jeux Nautiques, au passage, Yoon-San, qui auront lieu
le 14 au 18 juillet 2014. Et nous vous invitons à venir dans deux villes, La Roche-sur-Yon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Bonjour Benjamin Salvodelli, vous arrivez au terme de cette émission sur le sport et les territoires. Vous êtes étudiante du master Audencia Moss. Est-ce que vous avez une réaction sur ce débat?
Oui, alors ce qu'on peut retirer de ce débat, c'est qu'il y a un réel flou autour des qualifications et des compétences de chacun des intervenants dans le milieu du sport, que ce soit au niveau national ou au niveau local. L'enjeu des deux réformes qui vont arriver, autant celle de modernisation du sport que celle du territoire, ils sont d'anticiper ce que sera l'avenir du sport à différents échelons. Quand on a évoqué sport et territoire, on a associé au mot territoire tout de suite aménagement du territoire et considération locale, qui nous paraissaient les deux enjeux. Ainsi, on a pu intégrer les notions de développement associatif, enfin de participation associative plus exactement, d'infrastructures sportives et d'intervention sociale du sport. Pour nous, c'était les grands axes, mais on a clairement voulu distinguer le sport professionnel du sport amateur en ce sens que l'un évoque une mission d'intérêt général et que l'autre nous paraît plutôt un enjeu économique. Et nous pensons qu'effectivement, les réformes qui devraient entrer en vigueur se doivent d'anticiper ce que sera l'avenir de demain, autant d'un point de vue politique sur le découpage territorial, que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Union européenne, et plus largement ce qu'on entend du sport en tant qu'intérêt général. Alors est-ce qu'on parle du sport pour tous? Est-ce qu'on parle de la participation associative qui est très forte? Est-ce qu'on parle de l'accès aux infrastructures? Tout ça n'est pas très très clair aujourd'hui, et on attend effectivement une qualification juridique des compétences à différents échelons et autant sur le découpage géographique que sur le découpage de compétences entre le mouvement olympique, l'État et éventuellement les différents acteurs, les acteurs privés.
Merci beaucoup pour cette intervention. On va essayer de faire un dernier tour de table ici entre nous, peut-être en exprimant justement un souhait pour l'avenir du sport sur nos territoires demain. Monsieur le Président Ducros, est-ce que vous voulez démarrer ce dernier désir?
Oui, c'est un désir, mais également un plaisir, car le think tank nous a permis de discuter du thème de préparer aujourd'hui le sport de demain. Donc je trouvais ça, et qu'effectivement permettre d'exprimer malgré la gouvernance et territoire, on tourne autour de quoi? De pratiques sportives, autour d'une petite structure. Et je répète la phrase qui était initiée au départ, le sport c'est bien mieux dans un club, et le club c'est bien plus que du sport, car c'est bien le lieu de partage, d'un lien social, du plaisir, de l'émotion, certes pour une voie compétitive, mais c'est avant tout un lieu de formation à la citoyenneté, mais aussi à l'éducation d'intérêt général.
Merci beaucoup, Monsieur Rouleau. Un souhait aussi.
Je trouve que je prendrai volontiers la conclusion d'une salle qui va encore à jouer au sport, ça va venir. Non, nous sommes tout à fait d'accord. Je crois que la période actuelle se prête au débat. Le cross s'est renouvelé. Je crois que le renouvellement est une très bonne chose. On voit bien que nous sommes en période de crise et que la crise est porteuse de réflexion. On voit également que viennent les réflexions sur l'aménagement du territoire. Tout cela forme un ensemble où on va pouvoir envisager éventuellement une nouvelle gouvernance de sport. Alors moi, je suis à la fois optimiste et un peu pessimiste, parce que j'ai parlé tout à l'heure des rationalités, et on voit bien dans le débat d'aujourd'hui que cette nouvelle gouvernance est extrêmement complexe, puisqu'elle touche le sport de proximité, et puis le sport de très haut niveau, le sport professionnel et le sport de haut niveau. Et donc, au niveau de la ville, en tout cas, nous sommes très attachés à la citoyenneté, le sport citoyen, à l'accessibilité, à la qualité des équipements sportifs, au maintien du bénévolat dans nos quartiers. Et à partir de là, je pense que c'est une bonne base pour ensuite faire que le sportif élémentaire de quartier devienne un sportif éventuellement de haut niveau. Ce qui me frappe, c'est quand même l'absence de communication entre les décideurs, que sont en gros les collectivités territoriales, locales en particulier. On paye 63% du sport, hein, 9 milliards d'euros tous les ans. Et puis, l'autorité organisatrice, que sont les fédérations. Et donc, on peut se réjouir que Valérie Fourneron octroie deux places aux collectivités locales dans la commission territoriale, et qui nous permettra de faciliter cette communication. Mais je crois qu'il faut aller sans doute au-delà, déterminer des thèmes, et à partir de ces thèmes, inviter les collectivités territoriales pour échanger dans le cadre des schémas de cohérence, mais des schémas de cohérence qui ne seront applicables que s'il y a une volonté locale.
Merci beaucoup. Amandine, un dernier commentaire ou un dernier désir aussi? C'est bien,
oui,
de terminer par un désir féminin.
Ah oui, bien sûr.
Alors, mon souhait,
partagé.
Ça serait
partagé,
surtout une intensification du dialogue. C'est là que je rejoins Monsieur Rouleau, entre les différentes structures dans le domaine du sport, dans un souci de lisibilité, qui est vraiment plus de communication, encore plus de communication entre les différents organismes dans le domaine du sport.
Merci Amandine. On vous laisse donc conclure avec l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté.
Alors pour le mois de mai, l'événement majeur, ce sont les élections européennes du 22 au 25 mai. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voter. Et puis on arrive à la fin de notre émission. Donc vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.sportetcitoyenneté.com. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter Sport and Citizen et sur Facebook Association Sport et Citoyenneté. Et puis vous pouvez également aller faire un tour sur notre blog sportetcitoyenneté.blogactive.eu.
Merci beaucoup pour ce débat riche. On se retrouvera le mois prochain avec une thématique sur le sport et la santé en Europe. Merci et au revoir.
Think Tank, Wissenschaftsausschuss.
C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur euradionantes.eu.